Et dans cette édition, on fait un point avec le ministre de l'économie et des finances qui va partir à Paris. On se penche sur le préavis de grève de la FRAP avant d'aller à la tour de contrôle et au COPF. Le journal de 7h, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Valdemar, on commence cette édition en métropole où le fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, est décédé.
Oui, cette figure de l'extrême droite, vétéran des guerres coloniales, multi-condamné pour de nombreux propos négationnistes, antisémites ou islamophobes, s'est éteint à l'âge de 96 ans en Ile-de-France. Cette figure de la 5ème République a fait monter l'extrême droite en France, mais sa voix n'a jamais réellement porté en Outre-mer où il n'a rarement dépassé les 10%. En Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En Polynésie française, il n'a jamais réussi à faire porter sa voix. Il s'est présenté 5 fois à la présidentielle sans jamais réussir à mobiliser au Fénois. Il avait par exemple obtenu 0,3% des votes en 1975. Pour sa seconde tentative, il avait récolté 2,9% des suffrages en 88 avec 1728 voix avant de progresser un petit peu 7 ans plus tard avec 1866 bulletins à son nom, soit 3,1% des suffrages. Il avait recueilli son meilleur score au Fénois en 2002. 4,2% des suffrages au premier tour, arrivant en troisième position, loin derrière Jacques Chirac et Lionel Jospin, loin aussi de son score global de 16,86%. S'il s'était hissé au second tour à la surprise générale, il n'avait récolté que 12,25% des voix en Polynésie française, face à un Jacques Chirac, il faut le dire, qui avait tissé de nombreux liens avec la Polynésie de Gaston Floss. Là encore, c'était nettement en dessous de son score global. Pour sa dernière tentative, Jean-Marie Le Pen avait fait moins bien, 2175 votes, soit 1,9% des voix exprimées au Fénois. C'était en 2007. À l'échelle locale, son parti n'a rarement réussi à mobiliser.
On poursuit par ce déplacement à Paris.
Oui, celui du président Moët Ebrozerson. Il partira du 11 au 19 janvier, essentiellement pour des prises de contact avec les nouveaux occupants des ministères du gouvernement Bayrou. À ses côtés, le ministre des Finances, Warren Dexter, qui participera à Bercy au colloque sur l'élaboration du Code des finances publiques polynésien. Un code démarré en 2018 et qui devrait être achevé en 2025. Warren Dexter se dit conscient que la Polynésie ne figure cette année pas très haut dans les priorités du gouvernement central, qui est surtout concerné par le cyclone à Mayotte, les manifestations contre la vie chère aux Antilles ou la crise politique en Nouvelle-Calédonie. Mais Warren Dexter est surtout conscient que c'est en Polynésie qu'il est attendu, d'abord sur l'exécution du budget.
Moi, ce que je veux surtout, c'est que les ministères dépensent les 60 milliards de CP qu'on a au budget. Quoi. 60 milliards de marché public. On a accumulé 30 milliards de report. Hérité aussi des droits. Hein. Et c'est ça qui fait la trésorerie. On n'arrive pas à dépenser. Je vais suivre ça comme le lait sur le feu. Il faut absolument que ça dépense. Hein.
Et l'une des bonnes nouvelles pour les investisseurs, c'est l'augmentation de l'enveloppe consacrée à la défiscalisation locale qui passe de 6,1 milliards en 2024 à 7,1 milliards en 2025. Côté fiscalité toujours, le grand chantier de cette année pour Warren Dexter, c'est une réforme.
Là, mon gros dossier 2025, c'est la réforme des PPN-PGC. En fait, on supprime le principe du plafonnement des marges, on libéralise, les entreprises font comme elles veulent, sauf qu'on signe un accord de modération avec elles pour avoir des marges raisonnables. Et puis, pour compenser la perte de pouvoir d'achat entre ce qui était autrefois PPN et à marge raisonnable, on met en place un système d'aide directe par carte bancaire.
Voilà Warren Dexter qui doit aussi amorcer la réforme de l'impôt sur les transactions annoncée au patronat pour la fin 2025. Enfin, la question de la taxe voyageur est toujours d'actualité, pilotée par le président du pays lui-même.
Il est 7h04, comme attendu, la FRAP a déposé un préavis de grève hier.
Oui, le syndicat veut obtenir ce qu'il assure avoir négocié avec le gouvernement lors du protocole de fin de grève en décembre, à savoir, selon le préavis, l'engagement ferme pris par le président, confirmé par voie de presse, visant à revaloriser l'indice des agents fonctionnaires de catégorie D à partir du premier échelon de chaque grade de 20 points. Ce projet qui concerne 1856 agents est chiffré à 377 millions par la FRAP. Mais le 23 décembre, le Conseil supérieur de la fonction publique en avait voté un autre, avec les voix CSTPFO et Atia Imoua, qui propose une revalorisation de 5 points, ce qui a provoqué la colère de la FRAP, qui a tout de même attendu avant de poser ce nouveau préavis. On écoute Jean-Paul Ourima, le patron du syndicat.
Nous avons quand même tenu notre parole. Nous avons dit qu'il y aura une trêve des confiseurs à l'issue du protocole d'accord de fin de conflit. Et maintenant, on est obligé de recadrer de nouveau les choses et dire au gouvernement qu'il faut vraiment tenir parole.
En cas d'échec des négociations, la grève sera effective le 14 janvier à minuit. Si le mouvement devrait encore une fois être suivi chez les pompiers d'aérodrome, le calendrier épargne cette fois les vols retour des élèves pour la rentrée scolaire, ce qui n'empêchera pas la grève d'avoir un certain impact puisque d'autres services sont concernés. Écoutez Gérard Barf, secrétaire général adjoint de la FRAP.
Ça va impacter, hein. Il y aura sûrement des annulations. L'impact après, c'est les autres services, je prends la biosécurité, ce sont les produits. Il faut qu'ils viennent vérifier, donner le cachet pour sortir les produits. automobiles et en marchandises, des conteneurs, que ce soit les bateaux ou les avions. Au permis, les cartes grises, la circulation au niveau de l'équipement, parce qu'il faut toujours, en fonction des horaires, changer les trois voies en deux voies, des choses comme ça. Ça aussi, ça va être perturbé. La circulation va être plus dure. Il y aura plus de bouchons, quoi.
Et le timing des négociations risque toutefois d'être serré puisque le président Moët Broserson doit s'envoler pour Paris à partir du 11 janvier. Il aura l'occasion de nous en parler car il est l'invité de la rédaction aujourd'hui à 11h30.
Et à propos de vol, on revient sur l'incident du week-end dernier à la tour de contrôle.
Oui, dans la nuit de vendredi à samedi, le service du contrôle aérien de Tahiti Faa a été interrompu durant 3 heures, ce qui a provoqué un retard important au départ d'un vol ATN. Un événement exceptionnel, assure le directeur de la navigation aérienne Gilles Perbost du CEAC. Dû à l'absence notifiée tardivement d'un des quatre contrôleurs qui se relaient à la tour par période de 8 heures. Ce soir-là, les contrôleurs présents ont pu assurer le départ et l'arrivée de 6 des 7 vols prévus. Alors, il est exact que ce service, qui compte normalement 35 contrôleurs aériens, est actuellement en sous-effectif. Mais Gilles Perbos souligne que 27 recrutements ont été effectués depuis 2020 et 12 nouvelles recrues seront opérationnelles d'ici à la fin de l'année. On l'écoute.
On est un petit peu en dessous de l'effectif nominal actuellement. Aujourd'hui, on a quelques difficultés de ressources humaines parce qu'on a eu des départs anticipés de contrôleurs à d'autres affectations. Est-ce que ça peut se reproduire dans les 6 mois qui arrivent ? Ça peut potentiellement arriver. C'est rare parce qu'on a toujours des contrôleurs qui sont très professionnels et que par conséquent, quand on fait appel à des volontaires pour dire ben voilà, on a un petit souci dans 2 jours, dans 3 jours, est-ce que quelqu'un peut être volontaire ? Et puis on trouve toujours quelqu'un qui est volontaire pour le faire.
Voilà, d'autres perturbations sont encore possibles. Vous l'avez entendu dans ces propos recueillis par Caroline Perdry.
Un mot de santé et cet appel à la vaccination.
Le dernier bulletin de veille sanitaire fait état de 3 nouveaux cas de grippe A, dont un nourrisson de 8 mois. Bien que l'incidence reste faible, les autorités sanitaires rappellent l'importance de la vaccination, en particulier pour les populations à risque, personnes âgées de 60 ans et plus, femmes enceintes, professionnels de santé. La campagne vaccinale se poursuit jusqu'au 30 avril 2025. Par ailleurs, la coqueluche montre des signes de régression, tandis que 43 cas de dengue ont été recensés durant la dernière semaine de veille du bulletin.
On passe au sport, Val-de-Marne. Les Jeux de Tahiti 2027 approchent et ça se prépare.
Oui, le COPF déroule son projet Ambition Tahiti 2027, dont l'objectif est clair, gagner les Jeux à domicile. Cette stratégie entend réorganiser et mieux structurer les fédérations sportives en leur apportant un soutien financier et logistique. L'un des défis majeurs de ce plan a d'ailleurs été le financement. Il a été présenté 3 fois en 2022 au ministère, puis en commission interministérielle sans trouver d'oreille attentive. Initialement prévu avec un budget de 120 millions de francs par an, ce plan a été à nouveau présenté en 2023, mais revu à la baisse par le pays. Depuis 3 ans, environ 125 millions au total ont été alloués. Une réduction importante qui ne semble pas démobiliser le responsable Eric Zorniotti, qui garde en ligne de mire l'objectif de 80 médailles d'or pour devancer la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On écoute Eric Zorniotti.
On a réussi à convaincre la ministre du projet, donc elle nous a suivis et je pense que c'est déjà une bonne chose. C'est la première fois qu'on aura la possibilité de préparer nos athlètes sur plusieurs années, même si j'aurais bien voulu qu'on commence dès 2022, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Mais on aura quand même 3 ans jusqu'en 2027, puisqu'en 2024, on a déjà un petit peu commencé avec certaines fédérations.
Et ce plan, il repose sur plusieurs piliers, confiance, agilité, contrôle et exigence. Selon Eric Zorniotti, ces axes permettent d'établir un cadre clair pour les fédérations qui doivent travailler sur de vrais projets de performance. Une manière de travailler pour laquelle certaines structures n'étaient pas vraiment prêtes. Sur 26 fédérations, seulement 17 disposent d'un cadre technique.
Aujourd'hui, c'est la mise en place qui est plus compliquée parce que quand on leur demande une exigence très pointue sur la performance, jusqu'à présent, on était je sais plus ou moins comment je fais, mais là, on demande de l'écrire. Donc, il y a eu un accompagnement, un gros accompagnement de ma part où j'ai pu discuter avec les fédérations, les aider, les accompagner pour écrire ces projets-là, pour justement que tout le monde soit protégé.
Voilà, ce qui implique également un accompagnement personnalisé des athlètes avec surtout un suivi rigoureux de leur préparation physique. On écoute encore le directeur technique du COPF.
Si on a fait ce projet, c'est dû à une analyse qu'on avait faite suite aux mini-jeux des îles Marianne et les jeux de 2023 aux îles Salomon, où déjà on avait quand même 30% des athlètes qui étaient blessés avant de commencer les compétitions. Donc aujourd'hui, on va mesurer un petit peu tout ça avec des préparateurs physiques, avec des kinés qui vont pouvoir suivre les athlètes et on espère justement baisser ce chiffre.
Voilà, bref, beaucoup de projets à mettre en œuvre en seulement 2 ans, un délai qualifié par Eric Zagnotti d'à la fois long et très court. Le directeur technique est conscient que pour faire de la performance, il faut plusieurs années. Mais au-delà de 2027, dit-il, cette stratégie devrait impacter positivement le monde du sport polynésien.
En Nouvelle-Calédonie, le Congrès s'est réuni.
Ah oui, pour choisir les membres du prochain gouvernement qui va remplacer celui de l'indépendantiste Louis Mapou. Et cette fois, les loyalistes ont remporté 10 des 14 sièges. Mais le président du gouvernement n'est toujours pas choisi parmi ces 14 personnes. C'est attendu très rapidement, sauf surprise, cela devrait être le Kanak Alcide Ponga, élu loyaliste. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité locale, c'est à 7h30 avec la revue de presse, prochain flash à 8h. Gros rendez-vous à noter, on l'a dit, à 11h30, Moëtte Brotherson, le président du pays et l'invité de la rédaction, il répondra aux questions de Caroline Perdri.
Merci beaucoup Valdemar pour ce journal, on passe à la météo sur Radio.